Lancourt, ancienne version, nouvelle version. En fait, Christophe Colomb, ce sont des circonstances. On les a déjà étudiées la dernière fois lorsqu'on a parlé de lui, des circonstances historiques. Des circonstances qui vont permettre une conquête, je dirais d'abord une découverte, parce que c'est cela, et plus particulièrement celle qu'il a faite lors de son premier voyage. C'est une aventure que naturellement Christophe Colomb avait préparée dans sa tête, mais il avait, il faut le savoir, en Europe, créé tout un système de relations à travers les différents pays de l'époque, bien sûr, et je pense plus particulièrement au Portugal. Et puis, il y a ces contacts qu'il a gardés à Gênes. Vous savez qu'il a su suggérer à tous les grands banquiers de l'endroit de financer sa première grande expédition. Et puis, il y a naturellement l'Espagne où nous sommes maintenant, parce que Christophe Colomb parlait l'espagnol, parce que maintenant il est à la cour d'Espagne. Et puis, il avait gardé des contacts, des amitiés extrêmement fidèles avec ce pays. Il les a gardés jusqu'à sa mort en 1506.
Tout à l'heure de Gênes, où est né Christophe Colomb en 1451. Oui, maintenant, je crois qu'on est tout à fait sûr qu'il était génois. Toutes les recherches historiques à partir du 19e siècle le prouvent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est immédiatement un marin. À l'âge de 14 ans, il fait son premier grand voyage et il s'engage comme petit mousse. Et il n'arrêtera plus de naviguer jusqu'en 1504, deux ans avant sa mort, lors de son dernier retour des Amériques des Indes occidentales. Et c'est un garçon grand, ce qui est très important parce que cette prestance va l'aider toute sa vie. Il est roux, il a les yeux bleus, il a beaucoup de prestance. Je crois que ce côté physique est plus important qu'on le croit. Quelqu'un de bien musclé, quelqu'un qui a un visage allongé, les pommettes très saillantes, beaucoup d'autorité. Ceci l'aidera à la fois pour ses hommes, parce qu'après tout c'est un meneur d'hommes. Ça l'aidera aussi pour ses rencontres dans les Indes occidentales, lorsqu'il rencontrera justement ses premiers Indiens. Je pense que cet aspect physique a été parfois négligé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à un moment donné de sa vie, lorsque, à la fin du second voyage en particulier, il commence à être un peu déçu de l'attitude des rois catholiques, déçu du monde qui l'entoure. Il croit encore à sa mission divine. Il se transforme, car il a un aspect qu'on ignore aussi peut-être trop souvent, c'est qu'il a étudié chez les franciscains. Et à un moment donné, il va s'habiller comme un moine franciscain. Il est pourtant clair, il n'est pas obligé d'être habillé comme tel, mais il va porter la bure, il aura le cordon autour de la taille. Ça doit lui donner un aspect étrange qui va certainement pousser au respect ses collègues marins, mais également les nobles, voire même la cour royale d'Espagne. Car à partir de là, on remarque que tout son système de contact sur le plan social est transformé. Mais revenons, nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à Grenade, en ce 2 janvier 1492, dans cette ville qui vient d'être reconquise par les Espagnols. Ce jour-là, eh bien, Christophe Colomb est présent à l'Alhambra, il accompagne les rois catholiques, il voit le roi mort, Boabdil, sortir de Grenade et baiser les mains des deux altesses royales qui sont présentes. À partir de là, tout ira très vite. Le 17 avril, Colomb va recevoir ce qu'on appelle les capitulations, c'est-à-dire qu'il aura un papier en main qui va lui permettre de partir vers les Amériques, de réaliser son projet. Il a failli plusieurs fois abandonner la cour d'Espagne. Il a été rappelé par Isabelle la catholique et il obtiendra très rapidement des titres qui nous paraissent aujourd'hui incroyables. Il a été nommé amiral, il a été nommé vice-roi, gouverneur des îles et de toutes les terres fermes qu'il allait découvrir. Donc avant son départ, il a déjà des titres de noblesse. À partir de là, il va se faire appeler Don Cristobal Colón. On pourrait se poser la question, pourquoi Colón et non pas Colombo, qui était son véritable nom. On peut comprendre que sa mission divine est déjà totalement marquée. Il espère être à la fois le porte-Christ dans toutes les églises d'Espagne qui ont été touchées par la découverte de l'Amérique ou par les premières conquêtes. On remarque effectivement des peintures immenses de Christophe portant le Christ sur ses épaules et traversant la mer, traversant l'eau. C'est l'idée même de Christophe Colomb. On remarque aussi que le mot colon en espagnol signifie le colonisateur, le colon. Donc, involontairement par son prénom et par son nom, il avait déjà l'idée de sa mission réelle, de cette mission spirituelle qui a toujours beaucoup plus compté pour lui que sa mission financière, sa mission purement matérielle. Il reste maintenant à financer l'expédition et surtout l'achat ou plutôt la location des 3 caravelles dont il a besoin, et il trouvera facilement l'argent. La couronne va lui donner la moitié des 2 millions dont il a besoin, et le reste c'est lui-même qui le trouvera grâce à des prêts qu'il va demander à ses compatriotes qui vivent à Séville. C'est assez curieux de voir que pratiquement toute la découverte de l'Amérique va être financée par des Italiens, justement. Et avant de quitter la cour, il va demander encore une chose qui me paraît très intéressante, qui donne bien l'idée de ce que cherche véritablement Colomb. Il demande des lettres de créance en blanc. Il en demande 3 en blanc afin de pouvoir les apporter ou les offrir directement au Grand Khan. C'est-à-dire qu'il sait déjà qu'il cherche la Chine et qu'il cherche la fin de l'Orient. Et quand il parlera du nouveau monde qu'il a découvert, effectivement, pour lui, ça reste la fin de l'Asie que personne ne connaissait. Il n'a jamais su jusqu'à sa mort qu'il avait découvert un nouveau continent. Il a pensé, effectivement, qu'il avait trouvé le paradis terrestre, mais il songeait à un paradis, à un Éden qui serait situé tout à fait à la queue de l'Asie et non pas dans cette future Amérique. Il a deviné la forme du continent, mais il n'a jamais su précisément qu'il avait découvert l'Amérique. Pour trouver ses bateaux, Colomb va descendre jusqu'à Palos. Il est là au mois de mai 1492. Et il va obliger les habitants de Palos à lui fournir des bateaux. Car il y avait un problème de piraterie l'année d'avant. Et cette ville était obligée, par édit royal, d'offrir tout ce dont il avait besoin. Et c'est grâce au frère Pinzón, et particulièrement à Martin Pinzón, qu'il va obtenir rapidement les caravelles dont il a besoin. En fait, il a reçu deux caravelles, la Pinta et la Niña, et il restait le troisième bateau qui n'est pas une véritable caravelle, qui est beaucoup plus lourd comme bâtiment. C'est naturellement la Santa Maria qu'il va débaptiser. Elle s'appelait la Galicienne au départ. Il va la débaptiser parce qu'il a envie de voyager sous l'image et sous le nom de la Vierge. À partir de là, tout ira très vite. Il va trouver une centaine d'hommes. La majorité est andalouse. Il trouvera encore des Basques. Bon, il lui faut certains hommes très précis. Il a besoin d'un notaire. Il va trouver un contrôleur royal. Il va même prendre un chirurgien. Après tout, ça peut être utile. Il va demander aussi des artisans, parce qu'à tout moment, il faudra réparer ces bateaux. On décrit toujours leur navire au retour comme de véritables rayons d'abeilles. Enfin, on a l'impression que l'ensemble de la coque est complètement troué. C'est vrai que on ne savait pas encore protéger totalement les coques et il y aura beaucoup de problèmes dans ses premiers voyages. Et puis, il a besoin de provisions. Alors, ça, c'est aussi très Christophe Colomb. Il va demander des provisions pour une année. C'est vous dire à quel point il avait l'intention d'aller loin et longtemps, surtout. Va avoir lieu le 3 août 1492. Alors, comme on le fait d'habitude lors d'un grand départ, tous ces marins vont devoir se confesser, vont devoir communier, et c'est un détail, mais Colomb est parti sans prêtre sur ces trois bateaux. Donc c'est plutôt un collectif qui va fonctionner en cas de problème religieux ou même de dernier sacrement, ce qui est arrivé très souvent. Il y a eu plusieurs morts dans ces expéditions. Alors maintenant, essayez de vous imaginer un peu l'endroit où nous sommes. Nous sommes à Palos et on va devoir descendre très doucement le Rio Tinto. On va ensuite passer sur le Rio Odiel. On va descendre petit à petit jusqu'à la mer et on va contourner le dernier promontoire qui domine le monastère, enfin qui est dominé par ce monastère de la Rábida. On va déployer les voiles. C'est la première fois qu'on va apercevoir ces grandes croix rouges que tout le monde connaît. Enfin, l'image de notre enfance, ce sont ces grandes croix de Saint-Jacques qu'on voit sur les caravelles. Et ils vont prendre la mer grâce à ces voiles latines et surtout ces voiles carrées. Cette voile carrée, il va même en faire installer une plus tard aux Canaries afin d'améliorer encore ses performances maritimes. Et puis là, petit à petit, on voit ces trois navires qui se lancent en pleine mer. La lourde Santa Maria qui pesait à peu près 100 tonneaux, ce qui est déjà plus que les autres, c'est déjà quelque chose de plus important. C'est le bateau capitaine, prend la tête. Et il est suivi par cette Niña et cette Pinta, une sorte de petite caravane comme ça qui s'élance dans le premier vent au petit matin. Alors, on fait voile directement vers le sud. L'idée de Colomb, c'est de partir d'abord vers les Canaries. Alors, voyons un peu comment fonctionnent ces bateaux. D'abord, il y a une promiscuité qui est absolument incroyable. Ce sont des coques de noix minuscules. Il y avait 100 personnes. Donc, il y a 35 personnes par bateau. Effectivement, il n'y a absolument pas de place pour se reposer, il n'y a pas de place pour dormir, les gens dorment à la Belle Étoile sur le pont, il n'y a que Colomb et puis son maître d'équipage qui auront une cabine, il n'y a que 2 cabines sur 3 bateaux. C'est vous donner un peu l'ambiance qui va y avoir lorsqu'on attendra une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans rien voir, sans rien trouver. Je crois que c'est moins long que le voyage de Magellan que je vous racontais l'avant-dernière fois, mais cette impression comme cela de devoir se serrer les coudes à longueur de journée, à longueur de nuit, ceci nous met bien dans cette ambiance de découverte. Ça me rappelle aussi après tout le départ vers la Lune avec nos 3 cosmonautes serrés dans leur petite cabine comme dans une boîte de sardines, non ? C'est vrai qu'involontairement, on est en train de suivre un fil conducteur. Et si je me rappelle d'Apollo 11 et de la Lune, c'est parce que toutes ces circonstances qui font les grandes découvertes que nous allons découvrir petit à petit, je redonne volontairement, découvrir, découverte, on va essayer de vivre au cours de ces prochaines semaines plusieurs grandes découvertes de notre planète. Ce sont des voyages aussi. Des voyages qui vont amener Colomb tout d'abord aux Canaries. Et puis ensuite, à partir des Canaries, il va décider de suivre sa route. Ça, c'est l'invention colombine. Il connaît bien les vents, il est déjà descendu le long des côtes d'Afrique, il connaît toutes les îles, il a eu tous les renseignements dont on pouvait rêver. Il va choisir sa route, c'est-à-dire une route extrêmement au sud, afin d'être persuadé d'être pris par les vents qui vont l'amener directement sur ce 28e parallèle qui va suivre constamment, 28e de latitude nord, naturellement. Et il affirmait, par rapport à sa route, qu'en allant droit à l'ouest, à partir de Yao, qui était la dernière des îles des Canaries, eh bien, au bout de 750 lieues, il devait absolument trouver la Terre. Alors ça, c'est une autre idée de Christophe Colomb, c'est d'avoir eu d'abord un peu de chance. Je veux dire par là qu'il a choisi involontairement, et tous les marins, tous ceux qui font de la voile dans l'Atlantique le savent, il a choisi la saison parfaite pour la navigation sur l'Atlantique. Et le 12 août, ils sont déjà dans les Canaries et ils en repartent le 6 septembre. Ils mettent les voiles. Et là, ce qui est important, c'est que Christophe Colomb, ainsi que les 2 autres qui dirigent les bateaux, vont écrire leur journal de bord et annoncer aux marins les distances parcourues. Alors je disais que c'était très Christophe Colomb aussi parce que il va mentir systématiquement, il va raccourcir systématiquement les distances afin d'être sûr de ne pas dépasser ces 750 lieues qu'il avait promises au départ. Alors pendant ces 10 premiers jours en plein Atlantique, c'est véritablement l'euphorie. Tout le monde est heureux, oui, c'est d'abord le temps est absolument splendide, il y a un vent tout à fait constant, et puis ensuite il rentre dans la mer des Sargasses. Ça, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas. Je vous avoue que la première fois où j'ai fait la traversée de l'Atlantique, j'étais sur un bateau. Et quand on aperçoit cette mer des Sargasses, qu'on évite en principe aujourd'hui, eh bien, on retrouve tout à coup l'océan semblable à une véritable prairie. Il y a du vert partout, il y a de la végétation partout. Et là, on ose comprendre comment ces marins ont dû réagir. Il y avait eu un exemple qui avait été donné à Christophe Colomb par un vieux marin qui lui avait dit qu'il avait déjà tenté une fois ce voyage à partir du Portugal et qu'il s'était perdu dans cette mer des Sargasses et qu'ils étaient revenus uniquement par crainte de cette végétation incroyable. Donc là, on peut penser, il y a plein de suppositions pour Christophe Colomb, on peut penser qu'il savait exactement qu'il allait toucher cette masse herbeuse incroyable. Mais les marins sont quand même un peu troublés. Et ce qui va peut-être les calmer, c'est que tout à coup, ils vont tomber sur des vents contraires. On dirait, c'est justement ce qu'on n'attend pas. Ben non, ça faisait 10 jours que le vent était toujours identique et les poussait toujours vers l'ouest. Ils avaient simplement peur de ne pas pouvoir revenir. Et en fait, ce vent contraire va plutôt leur faire plaisir. Et puis petit à petit, le vent va complètement tomber. Alors ça, c'est encore un autre aspect très impressionnant, c'est que sans vent, effectivement, il y avait déjà 3 semaines pratiquement qu'ils étaient sans voir aucun rivage. Eh bien, ce vent qui tombe, ce calme absolu, ils ont une peur épouvantable. Ils pensent qu'ils arrivent au bout de l'assiette du monde. Ils pensent qu'ils arrivent en bordure du monde. Et il y a la crainte, justement, de tomber, carrément, d'aller trop loin. Et ça, c'est encore un autre aspect qui est assez, assez curieux, parce que on comprend que tous ces gens-là sont encore des gens du Moyen-Âge. Ils ont peur de tous les mystères. On parle d'enfer. On parle encore d'un tas d'aspects qui ne nous touchent plus du tout aujourd'hui. Et le 11 octobre, tant mieux pour eux, ils vont trouver petit à petit des indices qui vont leur faire penser qu'ils arrivent peut-être en vue de quelque chose qu'on pourrait appeler la Terre. C'est-à-dire qu'ils vont voir d'abord une branche d'arbre avec des fleurs. C'est impossible de trouver ça en pleine mer si nous ne sommes pas très proches d'une Terre. Ils vont trouver un morceau de bois qui est travaillé. Ça, c'est probable qu'un indigène ait pu perdre quelque chose de sculpté. Et puis une planchette, donc, qui a aussi été taillée par la main de l'homme. Ça, c'est un peu l'euphorie du 11 octobre. Essayons de replacer ce dernier instant, puisqu'il reste quelques heures avant la découverte du premier îlot des Caraïbes, enfin des Antilles, et ces dernières heures avant de découvrir ce nouveau continent. Le Salve Regina, ça c'était les seuls moments où tout le monde se retrouvait. Plusieurs fois par jour, ces hommes priaient, chantaient. Ça donne aussi un peu l'ambiance religieuse extrêmement forte qui les portait véritablement vers cette découverte. Et ce soir-là, eh bien, il va demander qu'on se mette sur le château de Proue et qu'on commence à guetter. On avance toujours, on continue à naviguer de nuit, et c'est vers 22h que, juste au moment où la lune apparaît, que Christophe Colomb aperçoit soi-disant une petite lumière. Et puis plus tard, on la revoit. Donc ça, c'est important par rapport à la découverte des terres, car c'est vers 2h du matin, grosso modo, il ne faut pas oublier que ces gens-là ne travaillaient qu'au sablier, qu'un des matelots, c'était d'ailleurs un Espagnol, c'était un Sévillan qui s'appelait Rodrigue de Triana, va, en étant sur le château de Proue, va voir tout à coup une bande blanche infime comme ça à l'horizon, une bande de sable, et c'est là qu'il va hurler « Terre ». Or, en criant « Terre », il était celui qui avait découvert l'Amérique, et normalement, il devait toucher 5000 maravédis, c'est-à-dire une somme importante pour avoir été le premier. Or, à partir de là, Christophe Colomb va prétendre que c'est lui qui a vu la Terre le premier. Ça, c'est de nouveau pour des raisons un peu mystiques comme cela. Sa petite lumière, c'est possible qu'il l'ait vue. Mais c'est intéressant de voir qu'il va détourner cette découverte à son profit, pratiquement, simplement pour continuer à être le conducteur de ces hommes. Et c'est vrai que cette première vision, eh bien, elle va s'amplifier petit à petit, ils vont s'approcher, il y a une sorte de fébrilité à bord. C'est beau, en fait. Simplement, cette image, imaginez ce ciel, si vous êtes allé une fois dans ces Caraïbes ou dans cette région des Bahamas, c'est vrai que le temps est toujours très clair, vous avez une luminosité un peu bleutée comme ça, ce sable blanc effectivement est presque phosphorescent comme cela, et on s'approche, les eaux sont basses, et au lever du soleil, ce 12 octobre 1492, on peut jeter l'ancre devant la plage, devant cet îlot corallien qu'on a appelé Guanahani. On cherche encore à savoir quelle est la première île que Christophe Colomb a véritablement découvert. C'est donc dans les Bahamas. On pense aujourd'hui qu'il s'agit de Samana Cay. Et on a changé plusieurs fois de but. On a tenté de refaire toute la route de Colomb, de reprendre ce qui nous reste de son journal de bord. Et finalement, c'est il y a quelques mois seulement qu'on s'est arrêté sur cette île. Car après tout, on va fêter dans quelques mois cet événement. On va le fêter comme une découverte et non pas comme une conquête, bien sûr. Enfin, je l'espère. Il y a d'ailleurs beaucoup de problèmes, autant en Amérique latine qu'en Espagne à ce propos. Les gens se déchirent un peu pour savoir si c'est vraiment un événement qu'il faut fêter. Mais quand même, ce premier voyage est une chose tellement déterminante pour l'histoire contemporaine, pour l'histoire du monde, qu'on a peut-être raison de savoir exactement comment cela s'est produit, où cela s'est produit. Alors, voyons maintenant la scène de ce 12 octobre. On est sur cette plage blanche. Il y a cette végétation incroyable des Bahamas que Colomb aperçoit pour la première fois. Il y a Martin Pinson, son frère Vincent, qui dirige l'autre caravelle, qui descendent tous avec des bannières, avec des croix qui sont peintes aux initiales de Ferdinand et d'Isabelle, des croix vertes. Et puis en sautant à terre, Il y a ce geste incroyable, tout le monde va s'agenouiller, ils vont d'abord se mettre à embrasser le sol, ils vont pleurer, ensuite naturellement ils vont faire des actions de grâce, il y aura cette façon de remercier le ciel. Et ça, c'est encore une question qui correspond bien à cette époque. Ce sont des gens tellement fervents et qui en fait croient véritablement à un miracle, et c'est la raison pour laquelle ils vont appeler cet endroit San Salvador, le Saint Sauveur. C'est un nom que cette île, ou celle qu'on a cru être la bonne île, porte encore aujourd'hui. Colomb, l'amiral. Ce sera le seul titre qu'il désirera conserver jusqu'à la fin de ses jours, même s'il va lui être enlevé par les rois catholiques, même s'il va perdre tous ses droits petit à petit. Car il a découvert tellement de choses. Il a offert un cadeau tellement important à la couronne royale qu'effectivement, l'avoir fait vice-roi, amiral, possédant tout cela, touchant le 10% des revenus, c'était beaucoup trop. Mais là, devant cette plage, pour l'instant, il y a un premier événement important. C'est le fait que les indigènes sortent de la végétation et s'avancent vers ces blancs. Imaginez le contraste, des hommes nus qui portent uniquement un pagne, quelques plumes sur la tête, quelques bijoux de pacotille, et qui arrivent. Les premiers sont arrivés à la nage, bien sûr, ils sont arrivés sur des canoës ou en barque, et ils ont apporté immédiatement à ces étrangers, à ces espèces de montagnes flottantes qui étaient là sur la plage, ils vont apporter des perroquets, ils vont apporter des tissus, des pelotes de coton, ils vont leur apporter ce qu'ils ont taillé, c'est-à-dire une pagaie, ou éventuellement tout ce qu'ils pouvaient troquer contre des colliers, contre des grelots, contre la verroterie que Colomb avait volontairement chargé sur ses navires, car il le savait, le long des côtes d'Afrique, c'était la mode de pouvoir échanger des choses de peu de valeur contre de l'or, contre des richesses, contre des épices. Et Il y a une petite scène intéressante quand, par exemple, Colomb décrit ses hommes en disant qu'ils sont innocents, qu'il les trouve très doux. Il y aura des descriptions très intéressantes dans son journal de bord. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le journal de bord de Christophe Colomb. C'est un ouvrage très intéressant. Il y a ce petit détail où il remarque que ces hommes ne sont pas armés et qu'ils sont très intrigués par les épées des Espagnols. Et Colomb écrit justement qu'il est touché par le fait qu'au lieu de l'empoigner par le bon bout, ils prennent son épée par la lame et ils se coupent involontairement. Ils n'ont jamais vu de métal, ils n'ont jamais vu une arme aussi dangereuse qu'une simple épée. Alors, c'est un peu de ces premières descriptions qu'on peut faire partir le mythe du bon sauvage qui va tellement toucher notre ami Rousseau, un peu genevois. Et puis ensuite, il y a naturellement la chose qu'il a amenée ici, c'est-à-dire le métal précieux. Mais attention, pas pour s'enrichir. L'idée de Christophe Colomb, c'était de trouver de l'or pour pouvoir reprendre Jérusalem. C'était sa seule idée, car il lisait l'Apocalypse, je vous l'ai dit la dernière fois, il lisait les livres d'Isaïe, il lisait beaucoup la Bible, et il était persuadé que le jour où on arriverait, effectivement c'est une idée très franciscaine, qui remonte à Joachim de Flore, il pensait que si on arrivait un jour à couvrir la Terre, ou en tout cas à apporter la bonne nouvelle sur l'ensemble de la planète, à partir de là commencerait la fin du monde. Or, on disait aussi dans les Écritures que pour que la fin du monde arrive, il fallait que Jérusalem soit reprise et soit chrétienne. Donc, il avait promis au roi catholique, il va promettre plusieurs fois au pape, à la fois à Alexandre VI, ensuite au pape suivant, à Jules II, qui est un pape italien, le premier était un pape espagnol, il va leur écrire, il va leur promettre effectivement de leur apporter la somme nécessaire à une nouvelle croisade absolue sur Jérusalem. Donc l'idée de l'or est une idée qu'il faut changer. Ce n'est pas pour des raisons purement matérialistes que Colomb est parti, c'était vraiment pour une idée souveraine, pour une idée spirituelle extrêmement noble. Les Espagnols vont rester 2 jours face à cette plage de sable blanc et le 14 octobre, ils vont lever l'ancre. Mais auparavant, ils vont faire monter à bord 7 indigènes. Il y aura 10 d'indigènes qui vont rentrer avec eux en Espagne. Ce sera d'ailleurs le grand problème de Colomb, cette idée de ramener systématiquement des Indiens vers l'Espagne. Et ensuite, parce qu'ils ne trouvent pas assez d'or, parce qu'ils ne trouvent pas assez de richesses, cette volonté de prendre en esclavage des centaines et des centaines d'hommes. Ce sera la seule chose d'ailleurs qui l'empêchera d'être saint un jour, car l'esclavagisme lancé par Christophe Colomb est la chose pour laquelle on l'attaque le plus aujourd'hui, et on l'a déjà attaqué au XVIe siècle. Celui qui nous raconte le mieux l'histoire de Christophe Colomb, c'est Las Casas. Las Casas a été le premier défenseur des droits de l'homme. C'est lui qui, au Guatemala, au Pérou, au Mexique, s'est battu constamment contre les cruautés des premiers conquérants. Et c'est lui qui va décrire le mieux le voyage de Christophe Colomb grâce au journal de bord qui a disparu. C'est lui qui va reprendre avec Ferdinand, le fils de Christophe Colomb, pratiquement tous les détails que nous connaissons aujourd'hui sur cette découverte. Et la grande critique de l'esclavagisme, elle restera attachée constamment à Christophe Colomb et même Isabelle qui un jour est descendue à Séville et qui est descendue au bord de la mer à Cadix pour voir débarquer une des caravelles, pour voir débarquer ces indigènes, ces Espagnols qui rentraient des colonies. Effectivement, elle va être tellement fâchée que c'est à partir de là que se dessinera véritablement la coupure avec la cour d'Espagne. Car on ne supporte pas cette idée d'esclave parce qu'au fond, la seule loi de l'époque qui avait été donnée par les rois catholiques, c'était vous pouvez les christianiser, vous devez les protéger, mais il n'avait jamais été question d'être cruel et en fait de se comporter comme a dû se comporter Colomb. C'est vrai qu'il avait cette idée reprise des Portugais. Les Portugais l'avaient déjà fait le long des côtes d'Afrique et ils vendaient très cher les esclaves noirs. Et lui avait simplement pensé que ces Indiens, petit à petit, s'accoutumeraient à l'Espagne et qu'ils deviendraient de bons serviteurs, de bons esclaves. Et qu'avec cela, il y aurait possibilité de créer un capital une fois de plus. Il cherchait de l'argent pour christianiser ces gens-là, pour reprendre Jérusalem. Et il était capable de vendre des êtres humains pour faire une sorte de bénéfice. Et ça, c'est une chose qu'on pourra systématiquement reprocher à Christophe Colomb. Enfin, on était arrêté dans ces premières îles. C'est le 14 octobre, ils lèvent l'ancre, ils vont découvrir très rapidement Sainte-Marie de la Conception, ensuite l'île qu'il appellera Ferdinand, la suivante qu'il appellera Isabelle. Et finalement, le 21 octobre, il va toucher une île que les indigènes appellent Colba. Alors pour lui, Kolba, dans sa tête, c'est devenu Cipango. Il était sûr d'avoir découvert le Japon. Or c'est Cuba, bien sûr, ce nom qui restera à Cuba et que lui a appelé Juana, au nom de, du prince héritier qui s'appelait Juan. Et il va à Cuba recevoir plusieurs ambassades, spécialement l'ambassade d'un chef, d'un roi de la région. Il y a une très belle description aussi de cette première incursion à l'intérieur des terres, où ils vont trouver un village, ils pensaient trouver une capitale. En fait, ils tombent sur une cinquantaine de huttes seulement. Et c'est la réaction des indigènes qui est fantastique. Ces gens qui arrivent vers eux, qui les touchent, qui leur baisent les mains, qui leur baisent les pieds, qui s'émerveillent devant tout. Et puis, ces gens qui les font asseoir, qui les reçoivent dans la hutte principale, ces femmes qui s'approchent d'eux, qui touchent leur chair pour savoir s'ils sont vraiment humains. Ça, c'est l'aspect qui restera dans toute l'idée coloniale, mais surtout dans l'idée de la conquête, où systématiquement les indigènes d'Amérique vont prendre les Espagnols pour des dieux. Prochaine semaine, il y a un autre aspect qui va beaucoup toucher Christophe Colomb, c'est la première fois qu'il rencontre des cannibales. C'est la première fois qu'il rencontre des hommes qui se mangent entre eux. Ça, c'est aussi un aspect qui a dû être très très fort pour un chrétien comme lui. Et il dit pourtant que les cannibales sont des gens qui doivent être intelligents, qui doivent être doués de raison, simplement parce qu'ils sont armés. Ça, c'est encore un autre aspect intéressant de ce Moyen-Âge, c'est que de croire qu'on est homme et qu'on est doué de raison simplement parce qu'on a une armée et qu'on est capable de tuer son voisin. Ensuite, il va découvrir, là on est déjà au mois de décembre, on avance petit à petit dans ce voyage, il va découvrir Haïti, il va s'installer dans la baie de Saint-Nicolas, d'ailleurs, il y a encore plusieurs endroits qui portent les noms que Christophe Colomb a désignés. Et cette île, il va l'appeler Hispaniola, ce sera une île très importante pour lui, car ce sera la base de tout, ce sera le premier endroit où les Espagnols vont s'établir pour de bon. Le 24 décembre 1492, il y aura un des événements qui va marquer véritablement cette découverte. Il s'agit d'une distraction. En fait, c'est une des seules fois où Christophe Colomb est allé se coucher, où il a dormi gentiment. Il a simplement mis quelqu'un pour surveiller le gouvernail. Et celui qui surveillait le gouvernail l'a laissé à un mousse. Et puis finalement, leur bateau s'est échoué. C'est le grand naufrage. Le bateau va rester sur place. Christophe Colomb ne va rentrer qu'avec la Pinta et la Niña. La Santa Maria va se perdre dans cet endroit qu'ils vont appeler Navidad. Et à cet endroit, pour des raisons techniques, je vous ai dit qu'il y avait une promiscuité incroyable sur ces bateaux, il va être obligé d'abandonner 30 personnes. Il va les laisser jusqu'au prochain voyage. Et il crée un fortin, la première véritable installation sur Terre. Et ce qui est aussi très touchant, c'est de voir qu'au moment où il a fait naufrage, Tous les indigènes qui étaient sur la côte ont commencé à pleurer, étaient tristes, et ils sont venus l'aider. Le roi de la région a demandé qu'on envoie des canoës et ils vont décharger le navire échoué. Et Christophe Colomb va noter qu'il ne manquait même pas une épingle. Ces gens étaient d'une telle gentillesse qu'effectivement ils vont l'aider et il prétend qu'ils sont totalement dépourvus d'envie et qu'ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui appartient à autrui et que le roi était très vertueux. Ce qui veut dire qu'en fait, il vient de comprendre que les pré-colombiens, car ce sont les premiers pré-colombiens bien sûr, sont des gens qui vivent en communauté et qui en fait n'ont pas du tout l'aspect matériel, déjà matérialiste, qu'ont ces premiers Espagnols. C'est assez intriguant de voir cet échange entre deux civilisations qui nous fait déjà comprendre comment on pourra envahir le Mexique, comment on pourra envahir le Pérou sans aucune difficulté. Ces gens sont désintéressés parce que leur système, leur philosophie, leur religion est complètement différente. Alors ces 30 hommes qui sont installés maintenant à Navidad vont attendre le second voyage de Christophe Colomb. Et lorsqu'il va revenir au même endroit, ça a été sa première idée, il ne va rien retrouver. L'endroit a été rasé, brûlé, il ne trouvera que quelques cadavres. Ses 30 premiers à s'établir en Amérique vont mourir sous les flèches et les armes des indigènes. Et je crois que c'est important parce que pour Christophe Colomb, ça a été quelque chose de terrifiant. Cela veut dire que son premier établissement est raté. Cela veut dire aussi que la colonisation ne sera pas facile. Et ça, il le verra beaucoup plus tard, et les suivants aussi. C'est-à-dire qu'on verra que dans toutes les Caraïbes, finalement, il faudra supprimer les Indiens pour pouvoir s'y installer facilement. Mais revenons peut-être pour quelques instants à ce premier voyage. Le 2 janvier 1493, plus exactement, on va se réembarquer et on va tenter de rentrer. Le 6 janvier, on retrouve la Pinta qui s'était perdue et ensuite on traverse. On traverse pour revenir. D'abord, l'idée c'était de revenir plutôt sur les Açores. Enfin, il va être même obligé de rentrer sur les Açores parce que ça a été quelque chose de terrible. Jusqu'au 10 février, ils vont être pris par des tempêtes incroyables et les bateaux vont se perdre. C'est-à-dire que la Pinta va partir d'un côté, la Niña de l'autre. Et là, Christophe Colomb, après cette tempête, va être persuadé que la nouvelle de la découverte va parvenir grâce à Pinzón en Espagne. Il pense qu'il sera le dernier à arriver. Or, il a des ennuis en arrivant aux Açores, et vous comprenez pourquoi, les Açores sont portugaises. On va emprisonner l'ensemble de son équipage, et c'est seulement après les tractations, en montrant ses papiers, en prouvant qu'il ne vient pas d'Afrique, qu'il n'a jamais foulé le sol portugais, mais qu'au contraire, il est allé vers des terres totalement nouvelles, qu'on va le libérer, qu'on va le laisser rentrer. Et il sera obligé de s'arrêter encore à Lisbonne. Ça, c'est intéressant, puisqu'il va rencontrer le roi du Portugal avant de revoir le roi d'Espagne et la reine, Isabelle et Ferdinand, auxquels il va écrire une lettre très importante, parce qu'il désire justifier sa découverte et en même temps leur déclarer qu'elle est bien à eux et non pas au Portugal. Donc il s'avance très rapidement parce qu'il doit mettre ses pions sur son échiquier afin de conserver cette découverte et qu'elle ne lui soit pas volée. Donc il faut la faire valider, y compris par la papauté. Ce sera la première idée de Colomb. Alors il revient à Lisbonne après avoir vu le roi. On l'autorise à partir et c'est le 14 mars qu'il va franchir la barre de Saltes, cette marée montante qui permettait à ces petites caravelles de pénétrer dans le port de Palos, où il était parti le 3 août de l'année précédente. Et là, c'est vraiment le grand moment de Christophe Colomb, peut-être les plus beaux mois de sa vie, 6 mois de gloire sans aucune ombre. C'est vraiment le moment où il va pouvoir s'exprimer comme il l'entend. Il a eu beaucoup de chance, parce que Martin Pinzón, son concurrent possible, est arrivé le lendemain. Lui, il s'est perdu aussi. Et au lieu d'aller jusqu'aux Açores, il va être poussé par la tempête jusqu'en Galice, c'est-à-dire tout au nord de l'Espagne. Il aura tout autant de difficultés à revenir sur le sud. Et curieusement, par le fait de l'histoire, il est arrivé quelques heures après Christophe Colomb. Et il a été tellement dépité par cette tempête, il a été tellement souffrant, Pinzón, qu'un mois après, il était mort. Donc à partir de là, Colomb est seul, est le véritable découvreur et toute la gloire va rejaillir sur lui. voici maintenant à Séville. Colomb est accueilli comme personne ne l'a été avant lui. Il arrive avec ses 10 Indiens et il y aura des fêtes absolument extraordinaires. On décrit ces fêtes aussi importantes que si il était arrivé le jour de la fête Dieu. Or, quand on connaît la fête Dieu à Séville, si vous avez vécu une semaine sainte ou les plus grandes fêtes du 16, 17 et 18e siècle, on s'imagine l'accueil incroyable, les fleurs, l'arc de triomphe. Enfin, il devra partir ensuite sur Barcelone et ça, c'est encore une réception fantastique. Ce voyage à pied depuis Séville jusqu'à Barcelone pour aller voir le roi et la reine, une réception grandiose, les rues qui étaient bondées absolument. On a l'impression de se retrouver à New York une fois de plus le jour où les cosmonautes sont rentrés de la Lune. C'est un peu le même aspect, une fête incroyable et il va être introduit à la cour. Tout le monde veut voir ses Indiens, tout le monde veut voir les richesses qu'il a ramenées, ses perroquets, enfin ses animaux et ses choses incroyables. Et là, il va être accueilli par le roi et la reine, par le prince Jean aussi, par des caballeros, par tous les hidalgos qui sont réunis dans cette salle. Le roi se lève, donc on le reçoit vraiment comme un grand seigneur. Et on va même lui apporter un siège et il pourra s'asseoir sur l'estrade. Vous imaginez pour un homme qui est parti de rien, d'arriver à être l'égal des rois et d'apporter ainsi dans l'escarcelle des souverains la moitié du monde pratiquement. La seule chose qui reste maintenant à faire pour Christophe Colomb, eh bien, c'est de recommencer son aventure. Il va partir pour un deuxième voyage, mais alors des préparatifs qui sont beaucoup plus faciles. Et ils vont être menés en quelques semaines et il va obtenir des centaines d'hommes. Il y aura des appointés à la couronne, il y aura des gens qui veulent partir s'établir aux Indes. Il n'y aura pas de femmes par contre. C'est seulement au dernier voyage de Colomb qu'on amènera quelques femmes d'Europe. Et il y aura des hidalgos, bien sûr, avec des chevaux, des artisans, des mineurs, des cultivateurs. Parce qu'on espère trouver de l'or, bien sûr, si je parle de mines. Et puis il y aura tous les animaux qui ne sont pas connus en Amérique. C'est-à-dire des animaux nouveau-nés qu'on va prendre. On va embarquer des juments, des brebis, des moutons. On va ramener du blé, de l'avoine, des plants de vigne, des plants d'arbres. Donc on pense véritablement à une colonie. Et notre amiral, cet amiral de la mer Océane, cette capitaine générale va conduire une flotte tellement impressionnante que, en partant le 25 septembre 1493, il aura 17 voiliers avec 1200 hommes à bord. C'est vous dire qu'en quelques semaines, toute l'Europe est retournée. Tous les lettrés vont en parler pendant des mois et des mois. Toutes les gazettes vont parler de cet événement qui va bouleverser ce 16e siècle. Et la prochaine fois, eh bien, on continuera peut-être à cette époque. On essaiera de redécouvrir certains aspects de ce 16e siècle. On peut découvrir le monde entier à cette époque. C'est vrai qu'on peut aller se balader jusqu'en Chine, qu'on peut faire toute l'Amérique, qu'on peut redécouvrir l'Afrique et pourquoi pas l'Australie si on attend un peu.